Il y a une question qui est très banale, mais qu'il faut savoir utiliser avec délicatesse, qui est « Quel est votre âge ?» Vous avez quel âge? Dans certains cas, ça peut être très indiscret ou même véritablement déplacé. Mais la même expression peut ne pas être une question. Elle peut être une exclamation et voire même une lamentation. « Mais vous avez quel âge ?» Généralement devant des adultes qui se comportent soit comme des enfants, soit dont le comportement n'est vraiment pas digne d'eux, ni de leur âge de fait, ni de leur état de vie. Ça n'interdit pas un peu de fantaisie dans la vie. Mais ça y fixe quand même des limites. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'évangile de saint Matthieu. Quand il raconte la même histoire, ce début, cette demande de Jacques et Jean, attribue cette demande à leur maman. La mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils Jacques et Jean et elle se prosterne pour lui faire une demande. Et Jésus lui dit à la maman, « Que veux-tu ? » Et elle doit répondre, « Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Et la suite est identique, d'ailleurs Jésus s'adresse aux deux frères en lui disant la même chose, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Parce que le propre des enfants, c'est d'être ignorant de bien des choses. Et leur rôle, leur mission, c'est justement, c'est d'apprendre. Et le rôle de leurs parents, des adultes, c'est justement d'enseigner, de les aider à grandir en taille, en force, en maturité. C'est un bon sujet, ça. On utilise souvent ce terme. Qu'est-ce que c'est la maturité? La maturité, pour les êtres humains, ce n'est pas un processus naturel de vieillissement. Certains en font preuve très jeunes et d'autres jamais. Ça n'a rien d'automatique. Ce n'est pas une question d'âge. Et il est tout à fait remarquable que l'âge est globalement absent de l'Évangile. À quelques exceptions près, pour montrer que ce n'est pas une question simplement de connaissance de l'état civil. Au début de l'évangile de Saint-Luc, on dit de la prophétesse Anne qu'elle était arrivée à l'âge de 84 ans, après s'être retrouvée veuve après 7 ans de mariage. 84 ans, ça veut dire 7 fois 12. De la même façon que Jésus avait 12 ans, à l'épisode qu'on appelle du recouvrement au temple. 12 ans, c'était l'âge effectivement de la fille de Jaïr, que Jésus a ressuscité, a ramené à la vie, après avoir guéri une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 ans. Vous voyez que ce chiffre, il est symbolique, comme les 30 ans environ de Jésus quand il commence sa vie publique, qui est une référence aux 30 ans de David quand il accède à la royauté. Quel âge avaient les disciples? On ne sait pas. Cependant, on sait que Jacques et Jean, à la différence des deux autres frères, Simon-Pierre et André, Jacques et Jean travaillaient encore avec leur père quand Jésus les a appelés. Ils n'étaient pas encore partis de chez eux. Ils n'étaient pas autonomes. Ils avaient encore beaucoup à apprendre de la vie en société. Pour parler en langage moderne, et l'épisode le montre, ils n'avaient pas les codes. Ils n'avaient pas les codes parce qu'on ne demande pas au Christ de siéger avec lui dans sa gloire alors qu'il vient pour la troisième fois d'annoncer sa passion. Il faut vous lire les lignes qui précèdent. Et les 10 autres qui avaient entendu, en plus étaient devant eux, les 10 autres ne sont pas plus brillants, qui réagissent à la demande de frères, comme si Jésus n'avait pas répondu, sans tenir compte de la réponse. On pourrait faire d'ailleurs une liste des caractéristiques de la maturité. Il y aurait certainement la capacité d'écoute, sûrement la maîtrise de soi. C'est d'ailleurs un des fruits de l'Esprit-Saint. Mais c'est l'occasion d'admirer le calme de Jésus. On dit la patience de Dieu. Mais le calme de Jésus. Seigneur, j'adore ton calme. Et quand on va prier, on lui demande cela. On entre justement dans ce calme, dans cette paix intérieure avec lui. On lui demande de nous en donner justement de ce calme. La maturité, c'est un mélange de sagesse et d'expérience. Et il est important de les distinguer pour ne pas reprocher à quelqu'un son manque d'expérience quand le problème en réalité est un manque de sagesse. Le manque de sagesse, c'est un péché. Ne pas chercher la sagesse, c'est un péché, pas le manque d'expérience. Pourquoi ? Parce que la sagesse, c'est le seul antidote à la violence. La violence, quelle qu'elle soit, la violence est une folie. Nous prions pour la paix. Et nous avons raison, et nous devons prier pour la paix. Mais cela ne devrait pas nous empêcher d'enseigner la sagesse, de cultiver la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui donne sens et toute sa valeur à l'expérience. L'expérience en soi, elle n'a pas grand intérêt. Disons au moins que l'expérience, elle ne suffit pas. C'est d'ailleurs ce que Jésus montre à ses disciples au tout début de l'évangile de Saint-Luc, au moment de ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui se passe à la pêche miraculeuse ? Lui n'y connaît rien, il n'a pas d'expérience, ce n'est pas son métier. Et eux, qui sont censés être des pêcheurs expérimentés, ne pêchent rien. Quand j'étais au séminaire, il y avait un de nos professeurs qui avait été nommé évêque. Malgré son âge, assez jeune, il était effectivement brillant. Et puis, un manque total d'expérience, il avait toujours été professeur, manque total d'expérience en paroisse, il n'avait jamais été curé. Et puis, il y avait un de nos camarades qui lui avait adressé un message de félicitations, un peu insolent, comme le font les étudiants, avec une phrase de saint Paul, de la première lettre à Timothée, qui dit « Que personne ne méprise ta jeunesse ». Mais c'est la suite qu'il faut lire. « Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager, à les instruire. » Autrement dit, et c'était vrai pour ce prêtre qui devenait évêque, mais c'est vrai pour tout chrétien. Prends appui sur la parole de Dieu. Et quel que soit ton état de vie, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'activité, gardons le temps de prier. Vous vous souvenez de la première lecture de dimanche dernier ? J'ai prié et la sagesse m'a été donnée. J'ai prié, la sagesse m'a été donnée. C'est un des trésors de l'Ancien Testament, les livres de sagesse, que ce soit celui qui porte ce nom, que ce soit les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste, de l'Ecclésiastique, un trésor. Il faut pouvoir quand même se demander comment des personnes, on les appelle d'âge mûr, enfin disons d'expérience, des personnes qui ont une vie bien remplie, peuvent se comporter parfois de façon totalement insensée, comme s'ils n'avaient rien appris, comme s'ils n'avaient rien retenu de ce qu'ils avaient vécu. Ou à l'inverse, parce qu'on approche de la Toussaint, et parce que ce sont les grandes pages de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire de l'histoire de la sainteté, comment de jeunes enfants peuvent être nés des modèles de sagesse. On a déjà dans l'Ancien Testament l'exemple du prophète Daniel. C'est un beau passage, quand il intervient, il s'oppose à l'injuste condamnation de la malheureuse Suzanne. La sagesse, c'est un don de l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est un trésor qui est offert à tous. C'est un trésor offert à tous pour tout ce qui relève de la vie courante. Et pour tout ce qui est complexe, pour toutes les missions complexes, pour tout ce qui sort de l'ordinaire, il y a évidemment besoin de connaissances et de savoirs spécifiques et d'une expérience éprouvée. Ces compétences, ce savoir, ça s'acquiert par le travail. Mais l'expérience, elle s'acquiert fondamentalement dans l'humilité. Et parfois, il faut le dire clairement, parce que c'est ce qu'on ressent, dans l'humiliation. L'humiliation de nos erreurs, pour autant qu'on ait justement la sagesse de les reconnaître, de s'en souvenir, de s'en servir. Pour venir à la demande des disciples, est-ce que c'est par manque de sagesse ou par manque d'expérience qu'ils aspirent à régner avec le Christ dans la gloire? Autrement dit, qu'ils imaginent que le fait de régner, que d'accéder au pouvoir, puisse leur donner la plénitude, les combler pour l'éternité. L'exercice du pouvoir, il y en a qui sont, pour qui c'est très vite une addiction, mais l'exercice du pouvoir, c'est une joie de courte durée, le temps d'y accéder. Et très vite, ça laisse la place aux difficultés, aux désillusions. Parce que la vraie joie, ce n'est pas celle du pouvoir, c'est celle du service, c'est celle de la charité. Et il y a ce passage remarquable de la deuxième lettre aux Corinthiens, où le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance se déploie dans tes faiblesses. » Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et saint Paul répond, « Eh bien donc, je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, pour que justement la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Et il aurait pu dire, de la même façon, j'accepterai, j'assumerai, je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la sagesse du Christ fasse en moi sa demeure. Parce que c'est le même saint Paul qui dit que le Christ, il est puissance et sagesse de Dieu. Que la sagesse du Christ fasse en nous sa demeure et qu'elle soit vraiment notre maturité.